à la théorie, à commencer à étudier avec vous hier, il y a un passage qui se trouve beaucoup plus loin que les premières phrases qui ont été faites hier, la première, deuxième, troisième, la quatrième des cinq feuilles. Ceux donc qui étaient là hier, quelles sont les personnes qui n'étaient pas là hier? Ça n'a pas grande importance, parce que nous n'allons pas faire le test de Maïmonide aujourd'hui, puisqu'il est continué demain par Rav Ashkenazi, mais il y a simplement l'introduction à ce que je fais aujourd'hui, non, demain, pour les raisons, jeudi, il a son, la commémoration de la mort de son père des 30 jours, c'est pour ça qu'il y a ce, comme je vous l'ai expliqué hier, cette inversion. Donc, la quatrième feuille, pour ceux qui ont les feuilles de Maïmonide, vous avez, à un moment donné, ah, merci beaucoup. C'est du thé, mademoiselle, c'est du thé? Non, je ne voulais pas que je demande une infusion de menthe, de verveine, de tilleul, n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis confus, hein, j'allais pour combien de temps. Ah oui, non, mais c'est pas de votre faute. Hein. Je suis confus de vous déranger, mais je ne peux pas partir au milieu du cours. Alors donc, ceux qui ont la feuille, il y a juste deux lignes, nous allons lire ensemble. À partir de la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. La huitième ligne. Donc sur la huitième ligne, c'est le chapitre 12, dans le paragraphe 2, et Maïmonide explique comment, en résumant, n'est-ce pas, comment les sages ont décrit l'époque messianique et les événements qui seraient susceptibles de se produire avant l'arrivée du Messie, en particulier la guerre de Gog et Magog, etc., en montrant donc que les sages ont projeté certaines possibilités. Et il ajoute, et c'est là que je vous demande de suivre le texte de Maïmonide, « Vechol eilu hadvarim » Vachayotse vohem, lo yeda odom, eir yeyu, achiyu. Et toutes ces choses, tout ce qui vient d'expliquer, tous ces événements, et tout ce qui s'ensuit, aucun homme ne sait comment ces choses-là seront avant qu'elles ne se produisent. Donc, c'est clair, n'est-ce pas? Il me dit que ces événements dont les saints vont parler ne représentent des possibilités, non pas des certitudes, on ne sait exactement comment se passera l'avenue du Messie et ce qui l'entoure que le jour où ça se passera. Pourquoi ? Chez Devorim, se soumine Hem et Sel Hanevi'im. Car ces choses sont cachées, j'allais dire même, n'est-ce pas, des prophètes. Autrement dit, les prophètes ont reçu par prophétie un certain nombre de renseignements concernant les temps messianiques, mais la précision de la façon dont les événements se produiront ne leur a pas été communiquée, puisque même cela est caché aux prophètes. Gam, hachachomim, ein lohem, kabolo, idvorim el. Même les sages, c'est-à-dire ceux qui transmettent la tradition orale, donc en particulier ceux qui ont formulé la transmission de la sagesse dans le Talmud, c'est ce qui nous intéresse ici, même donc les sages n'ont pas de tradition reçue. Kabbalo ici, ça ne veut pas dire le sens de Kabbal, ça veut dire de tradition reçue de maître à élève du Moïse, en ce qui concerne ces choses. Donc ni les prophètes ne le savent clairement, parce que ces choses sont se soumines, ils sont cachées, qu'ils sont dits de façon voilée aux prophètes, et les sages non plus n'ont pas reçu un enseignement précis sur ces questions. Et le fit Herra Rapsukim, mais seulement, sous-entendu, ils peuvent en parler, ou ce qu'ils savent, c'est en fonction de l'implication des versets. C'est-à-dire que les versets de la Bible, la Torah écrite, avec le sens que ces versets ont, peut être étudié par les sages, et les implications de ces versets peuvent leur permettre de présenter une possibilité dans la cohérence du verset. Vous savez que dans le Talmud, par exemple, pour la halakha, c'est un principe général, il y a plusieurs transmissions possibles, il y a dû par la tradition. Lorsqu'une halakha, lorsqu'une loi est transmise par tradition, il n'y a jamais de discussion, elle est acceptée par tout le monde. Si un sage du Talmud dit « je sais par tradition que », personne ne le conteste. Ça veut dire que cela vient de Moïse, qu'il a reçu de Dieu. Si par contre, il y a un raisonnement, Svara, à ce moment-là, le raisonnement doit être parfaitement cohérent et on peut lui opposer, à ce moment-là, tous les autres versets de la Bible. Il faut que les autres versets de la Bible ne puissent pas démolir. Le raisonnement fait sur un verset, faute de quoi, le raisonnement va s'écrouler. Donc, un raisonnement peut être attaqué. C'est pour cela que vous avez, sur un certain nombre de points dans le Talmud, des discussions, divergences, parce qu'il ne s'agit pas de transmission reçue par Kabbalah, mais il s'agit de ce qui résulte d'un raisonnement sur la cohérence d'un verset. Donc le Rambam, Maïmonide, nous dit qu'en ce qui concerne les événements messianiques, même les sages n'ont pas de tradition transmise à ce sujet, mais uniquement en fonction, herra absukim, de l'implication, de l'obligation, de la cohérence, de la nécessité interne, merci beaucoup, du verset. Désolé d'avoir dérangé. Ou le sirhor, je continue le Rambam, yesh lohem machloket yorem elou. C'est pour cela qu'il y a, chez les sages, une discussion, machloket, sur ces événements, sur ces faits. Oui, d'accord. Je vous ai dit l'avant-dernière feuille et la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai commencé à la 8 et maintenant je suis à la 10. Je suis 3 lignes à la fin maintenant. Et c'est pour cela donc qu'il y a divergence, n'est-ce pas, Marc Loquet, discussion à ce sujet chez les sages. Voilà. Eh bien, voilà, si vous voulez, les quelques versets. Vous n'avez plus besoin de votre Maïmonide pour aujourd'hui. Voilà donc les quelques versets de Maïmonide concernant ces événements. Ce que j'ai voulu faire, c'est choisir un texte du Talmud qui traite justement de ces problèmes concernant le Messie et qui se présente comme une succession absolument illogique, apparemment arbitraire, peu clair, d'affirmations apparemment gratuites concernant un point précis du Messie, et essayer de voir avec vous dans quelle mesure, en fait, ce texte correspond à une rigueur, quel est le but des sages et que sous-tend cette discussion. Puisque s'il s'agit de sages, donc il s'agit quand même de gens qui ont une connaissance de la sagesse. Et même s'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, s'ils vont raisonner, ils vont raisonner, on peut l'espérer en tout cas, intelligemment et dans la cohérence de la tradition qu'ils ont reçue. Dans le traité de Sanhédrin, et c'est le texte qu'on vous a distribué, et ceux qui ne l'ont pas, il y a des textes au fond de la salle, alors maintenant je vous demande donc de prendre texte qu'on a distribué, c'est un texte de Sanhédrin. J'ai distribué un texte vocalisé qui donc, c'est l'édition Steinsaltz, pour les gens qui ne savent pas bien lire, pour les gens qui préfèrent avoir un Talmud normal, si je puis dire, j'ai une vingtaine d'exemplaires à votre disposition. Pour ceux qui préfèrent la Gemara, je crois que toi tu préfères un texte de Gemara normal. C'est-à-dire c'est une garantie. Et donc, il se trouve qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui veulent un texte de Gemara normal. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'il n'est pas, il n'y a pas de point, de virgule, et c'est-à-dire que justement, il y a un rythme de la respiration, un rythme de l'étude qui rend ouvert la lecture, alors que là, il y a un choix déjà qui a été fait. Enfin, ce choix, de toute façon, correspond à la lecture
disons, la plus...
La
plus courante. Je vous en donne trois.
Merci.
Vous en mettrez deux. Alors, vous expliquez aux retardataires qu'ils prennent des textes derrière. Hein. Textes derrière. Le traité de Sanhédrin contient toute une succession de pages, en particulier des pages 90 à la page, aux pages 100, c'est-à-dire pratiquement chaque page ayant deux feuillets, n'est-ce pas, sur une vingtaine de pages, toute une succession d'enseignements concernant le Messie. Et j'ai choisi, dans la page 99A, un texte qui étudie la durée de l'époque messianique. On appelle en hébreu Yomei HaMoshiach, les jours du Messie. Et ce texte pose la question, bon, le jour où le Messie viendra, c'est-à-dire en admettant la venue du Messie, qui se fait de toute façon, si ce n'est pas par le mérite d'Israël, selon la volonté, virgule, se fait son volonté divine à la fin des temps, eh bien, une fois que le Messie sera là, combien de temps durera l'époque messianique ? Une des questions traitées par le tableau. Et donc, c'est ce texte que j'ai choisi d'étudier avec vous pour illustrer ce que disait Maïmonide. La méthode que je vais suivre, je vais vous l'expliquer, voilà ma méthodologie. Nous allons d'abord lire ce texte qui commence donc là où il y a Aleph, hein, qui est assez long, puisqu'il va jusqu'au bas de la page, jusqu'à Bet. Ce texte comprend, de façon classique, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous explique de façon classique, on a un enseignement d'un rabbin. Un rabbi, un tel a dit, de point volé guillemets, une affirmation. Cette affirmation doit être basée sur quoi ? Sur un verset biblique. D'après ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc à ce moment-là, le raisonnement est donc le suivant. Quel sage formule tel enseignement ? Et il va le faire suivre de la preuve, c'est-à-dire de sa référence scripturaire qu'il a choisie, en disant, voilà ce que signifie le verset. Ce verset signifie ce que je viens de vous dire. Je me base pour annoncer que les jours du Messie, dans le cas présent, seront de tant de temps, parce que j'ai un verset d'où je peux déduire cela. Donc, il cite le verset. Parfois, le verset n'est cité pas entièrement. Il est censé être connu. Nous le verrons, bien entendu, entièrement à ce moment-là. C'est introduit par la formule Shenehemar, comme il est dit, ou bien par la formule araméenne Ksiv, il est écrit. Et puis, nous verrons que chaque rab à son tour, va donner un enseignement. Au début, lorsque nous lirons le texte une première fois, vous allez crouler sous l'avalanche de ces enseignements, mais je préfère que vous ayez d'abord une donnée brute, si vous voulez, de l'ensemble, puisque nous reprendrons en détail, nous le relirons une deuxième fois. Une parenthèse qui n'a rien au détail, vous ne trouvez pas qu'il fait très chaud ? Est-ce qu'on peut découvrir un petit peu ? Ça ne gêne personne. Ça ne vous gêne pas, au fond. Ce texte, je l'ai étudié de façon extrêmement classique. Je ne vous présenterai donc pas ma lecture du texte. Bien sûr, j'en suis l'interprète. Mais ce texte, je l'ai étudié essentiellement avec trois grands commentateurs, avec Rashi, c'est-à-dire Rabbi Shlomo ben Yitzhak, qui a vécu de 1040 à 1105, et sans lequel il n'est pas possible de lire une ligne de Talmud. Je l'ai étudié ensuite avec le Maharsha, qui sont aussi les régulations de Shmuel Eliezer ben Yehuda à Levi Edels, qui a vécu de 1555 à 1631, et dont les commentaires sont devenus absolument classiques, qui se trouvent à la fin, dans tout traité talmudique, il y a à la fin les commentaires du Maharsha sur la Halakha, mais aussi des commentaires sur les Haggadot. La Haggadah, c'est la partie non juridique, et nous sommes ici dans un cas précis de partie non juridique. C'est une possibilité qui est évoquée. Ceci pour l'étude analytique, c'est-à-dire que chaque verset a été décortiqué avec le commentaire de Rashi et du Maharsha. En ce qui concerne les versets cités, je les ai étudiés pour eux-mêmes, d'abord, en les prenant à leur place avec l'ensemble des commentateurs traditionnels, Rashi, Ibn Ezra, jusqu'à Malbim. En ce qui concerne une vision synthétique, parce que l'analyse, vous verrez, pour chaque verset, on peut avoir un éclairage pour ne pas faire de contresens, mais ça ne nous donne pas du tout de clé, ça ne nous donne pas de clé de l'ensemble du texte. En ce qui concerne donc l'étude synthétique, elle a été faite sur la base du Maharal. Le Maharal, le Rabbi Yehuda Lev Ben Betzalel, qui est un des plus grands rabbins de tous les temps. On ne sait pas exactement quand il est né, soit en 1512, soit en 1525. En tout cas, on est sûr qu'il a vécu très vieux, puisqu'il est mort en 1609, et là, sa mort est bien connue. En particulier, je me suis basé sur un de ses nombreux livres qui s'appelle « Le Netzar Israël », et en particulier la fin du chapitre 46, ainsi que sur ses commentaires sur les Haggadotes du Talmud, Chidushé Haggadot. Alors, le Netzar Israël a été publié en 1599 du vivant du Maharal. C'est l'avant-dernier livre qu'il a publié, un des tout derniers livres. Et également sur les Chidushé, c'est-à-dire les commentaires sur les Haggadot du Talmud, qui ont paru pour la première fois en 1959, qui étaient restés en manuscrit jusqu'à cette époque. Et il n'y a pas encore d'ailleurs d'études critiques faites sur ces textes. Très souvent, il y a des conjonctures, des manuscrits sont souvent très. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de ratures, mais cette édition est extrêmement précieuse pour toutes les personnes qui étudient le Talmud. Voilà donc, ma dernière source, et non la moindre, c'est que j'ai étudié, après avoir donc fait ce travail, j'ai revu le texte du Talmud, j'ai discuté d'un certain nombre de commentaires qui me posaient problème, avec le Rav Katz, qui est le directeur des études de la yeshiva de Rav Rotenberg. Je tiens à le signaler parce qu'il est toujours très important d'étudier un texte de Talmud avec un maître, et que cela m'a permis de corriger certaines erreurs éventuelles et surtout de profiter également de sa science. Alors, si vous voulez bien, tout le monde a un texte, là. Les textes sont au fond. Tout le monde a un texte. Bon. Alors, nous allons donc maintenant commencer directement. Je vous répète, nous allons lire le texte d'emblée et je traduirai mot à mot également et nous reprendrons ensuite, comme je l'ai dit. Tanya. Il est enseigné dans une beraïta. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit. Yonois Hamoshiach Arboim Shono. Les jours du Messie, 40 ans. Chez Nehemar, comme il est dit, dans le psaume 95, verset 10, Arboim Shono. Au coût d'or. 40 ans, j'agripperai une génération. Donc voici un premier enseignement, j'ai traduit donc littéralement, un premier enseignement, Rabbi Eliezer, pour lequel la durée des jours du Messie serait, pourrait être, il n'y a pas de verbe, il traduit mot à mot, n'est-ce pas, de 40 ans. Je répète, les jours du Messie, 40 ans. C'est clair ? Enfin, c'est clair pour la lecture. Vous m'arrêtez, c'est des problèmes de lecture et de traduction littérale d'un texte obscur. Voilà, c'est un premier enseignement. La Braïta continue. Rabbi Eleazar ben Azaria Omer. Rabbi Eleazar, fils d'Azaria, dit Shivim Shonon, 70 ans. Shenema, comme il est dit, dans Isaïe 23:15, Ve hoyo bayom hahu, ve nishkachas sor, shivim shono, kimei meler echo. Et il arrivera ce jour-là, Tyr, la ville de Tyr, se trouve au Liban, Tyr sera oublié pendant 70 ans, conformément à les jours du roi 1. Fin de citation. Rabbi Eléazar continue, il pose une question, lui-même, dans son enseignement. Eisehu Meler Meyuchad, qui est le roi unique? Et il répond, Heve Oimer Zehu Mashiach. Je suis obligé de dire, c'est le Messie. Donc, deuxième enseignement de Rabbi Eliezer ben Azaria, les jours du Messie 70 ans, à la suite d'un verset qui parle d'un roi 1. Le mot Echod ayant plusieurs sens possibles, le rabbi lui-même montre comment il le lit en disant, eh bien, qui est-ce qu'on appelle roi 1 au sens d'unique? Qui est-ce qui porte le titre de roi unique? Eh bien, je suis obligé de dire que ce titre, seul le Messie a ce titre. Autrement dit, ce verset s'applique bien, nous dit Rabbi Eliezer, à ma démonstration. Vous suivez? Vous suivez, je répète, nous faisons une lecture formelle, n'est-ce pas, de l'ensemble du texte. Nous n'expliquons rien. Nous essayons d'entendre en français ce que le texte dit en hébreu. Troisième, Rabbi qui intervient, Rabbi Oimer. Rabbi dit, Shloisho Doiros. Trois générations. Shenema, comme il est dit, je vous donne les textes derrière. Psaume 72, 5. Yirahu, Im Shomesh, Ve Lishne Yoreach, Doir, Doiri. Et ils te craindront avec le soleil et en présence de la lune, une génération des générations. Ça va, toujours? Vous avez donc un troisième enseignement. Bien sûr, nous reprendrons ensuite chaque enseignement lui-même pour comprendre le verset et son articulation. Je vous dis, je veux d'abord que vous ayez une vue d'ensemble des dix affirmations qui vont se suivre. Nous sommes pour la troisième. Qu'est-ce que tu veux? Ça dépend de quoi? Le verset. Bon, alors, Rabbi dit, trois générations, comme il est dit donc dans ce verset, ils te craindront avec le soleil en présence de la lune, une génération des générations. Dor, dorim. Dor au singulier, ça fait un. Dor au pluriel, ça fait au moins deux. Le total, ça fait trois. Bien. Rabbi Hillel Omer. Rabbi Hillel dit, Ein Lohem Moshiach le Israël, Shekvar Achaluo Bimei Riskio. Il point de Messie pour Israël, car ils en ont déjà joui durant les jours de Hézéchias, c'est un roi, c'est le 12e roi après Salomon. Alors ça, évidemment, ça paraît tout à fait révolutionnaire, hein? Pas de Messie du tout. Alors là, il y aura une objection. Il y a un rabbin qui va intervenir pour faire une objection. C'est donc la suite, une objection à ce que vient de dire Rabbi Hillel. Omar, Rav Yosef a dit, Shoro lei morei le Rabbi Hillel, que le Seigneur pardonne à Rabbi Hillel. En bon français, Dieu lui pardonne. Hiskio. Eimas, Havo, le roi Ézéchias, quand a-t-il vécu? Le Beis Rishon, durant le premier temple. Ve'ilou. Zechario, Ko Misnabe. Le Veïcheni. Alors que le prophète Zacharia en français, cherchez le nom français. Le prophète Zacharie a prophétisé durant le deuxième temple. autrement dit, postérieurement à l'existence du roi Hizkiyahou, que le rabbi Hillel prétendait avoir été le Messie. Vous comprenez l'implication? Rabbi Hillel dit, plus de Messie pour Israël, car ils ont déjà joui au temps du roi Ézéchias. Vous entendez, Ézéchias a déjà été totalement ou partiellement le Messie. Sur quoi Rav Yosef fait une objection en disant, mais quand il vécut ce roi que Rabbi Hillel prétend avoir été déjà partiellement ou entièrement le Messie, durant le premier temps. Or, nous avons une prophétie qu'il va citer maintenant, qui se trouve dans ce prophète Zacharie, qui lui a vécu au cours du deuxième temps, c'est-à-dire postérieurement à ce roi, le Omar, je reprends donc le texte, et qui disait ce prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9, Gili me'od bas Sion, réjouis-toi grandement, fille de Sion, Hori bas Yerushalayim, lance des cris de joie, fille de Jérusalem, Hinei Malker Yovo Lom. Voici, ton roi viendra pour toi. Sadik le Neuchorou, juste et sauvé il sera. Oni ve Rochev al Hamor ve al Aïr ben Asoinois. Humble et chevauchant un âne et un ânon petit d'Anis. Donc, objection, nous avons une prophétie dans Zacharie qui paraît s'appliquer de façon particulièrement claire au Messie, qui est donnée comme prophétie au futur. Et donc, comment est-ce que Rabbi Hillel peut dire qu'il n'y aura plus de Messie, puisque postérieurement à son existence, à l'existence du roi que Hillel prétend avoir été le Messie, nous avons une prophétie qui annonce le Messie. Oui, tu voulais poser une question ? 9-9, chapitre 9, verset 9. Ça, c'est la fin de la première Braïta. Donc, à part ici, nous s'arrête un premier texte que le Talmud a inséré, c'est-à-dire une Braïta. Le Talmud a inséré ici. Et le Talmud a ajouté ce qui suit, puisque ça suit, c'est que c'est le Talmud qui l'a ajouté, n'est-ce pas, lors de la compilation. Et on nous dit Tanya Eder, autre Braïta. Donc une deuxième Braïta. Et vous allez voir que, de nouveau, nous allons avoir l'enseignement du même rabbin qu'au début, Rabbi Eliezer, et qui va donner le même temps, la même durée que la première fois, 40 ans. Mais vous allez remarquer que le rabbin va se baser sur un verset totalement différent, cette fois-ci, pour justifier sa durée. Ce qui vous montre, j'anticipe, mais ce qui vous montre d'ores et déjà que cette deuxième Braïta n'a pas la même implication que la première. Il y a des critères qui nous seront amenés à étudier, qui fondent la première Braïta. Donc, vous êtes obligé de voir quelle est l'unité, quels sont les critères qui fondent les différents éléments que l'on voit jusque maintenant. À quoi ça correspond? Que signifie pour eux l'époque du Messie? La deuxième Braïta, étant donné que nous allons avoir des durées qui vont être très différentes, mais que le même rabbi Eliezer, que nous avons vu au début, va redonner la même année, la même durée de 40 ans, mais avec un autre verset, cela nous montrera d'emblée, et vous verrez d'après le verset, vous verrez tout de suite quelle est l'implication, nous verrons qu'en tout cas, on ne parle plus tout la même chose. C'est toujours le problème de la durée de l'époque messianique, et à partir d'un autre critère, nous serons amenés à voir cela tout à l'heure. C'est clair? Alors, Tanya Ida, autre Braïssa. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Arboim Shona, 40 ans. Ksifor, il est écrit d'une part dans Deutéronome 8, 3. Vaya Ancho, Vaya Rivecho, Vaya Chilcho. Vous entendu, Eshamon, qui est la suite du verset. Il s'agit donc du passage du Deutéronome qui se rapporte lorsque Moïse raconte les souffrances des Hébreux dans le désert pendant les 40 ans. Alors il est dit, il t'a opprimé, il y a anho, c'est-à-dire ono, inouï, oppression, et t'a opprimé, et il t'a affamé, et il t'a fait manger. c'est un milieu du verset, et le verset se termine par « t'as mangé la manne », etc. Mais il y a marqué d'abord « il t'a affamé, il t'a opprimé, etc. » Or, cela s'est produit pendant 40 ans, n'est pas marqué dans la citation, mais nous savons que c'est les 40 ans du désert. Je crois d'ailleurs, nous verrons tout à l'heure, lorsque nous étudierons en détail, il est possible que les mots 40 ans se trouvent dans le verset de Deutéronome complet. Donc il est écrit d'une part, Ksiv, et le texte continue, Ursiv Hosom, et il est écrit par ailleurs, dans les psaumes 90, verset 15, Samcheinu Kimos Innisonu, Chenos, Roinoro, réjouis-nous selon les jours où tu nous as opprimés, les années durant lesquelles nous avons vu le mal. Autrement dit, l'argument, très rapidement, ici, de Rabbi Eliezer, c'est que d'une part, il y a eu une oppression pendant les 40 ans du désert, d'autre part, il y a un verset général dans les psaumes. Ben David, n'est-ce pas, qui dit « Réjouis-nous », les psaumes étant prophétiques, « Réjouis-nous conformément aux jours pendant lesquels je vous ai opprimés, puisque j'ai été opprimé pendant 40 ans, eh bien, tu dois nous réjouir pendant 40 ans. » Donc, les jours du Messie seront de 40 ans. Mais vous voyez que cette fois-ci, la motivation est différente. Il s'est arrêté. Pardon, 90-15. Et à ce moment-là, il y a un autre Rav, c'est Rabbi Dossa, si je me souviens bien. Rabbi Dossa qui intervient et qui va, lui, se servir du même verset des psaumes, mais va trouver un autre verset dans la Torah pour montrer l'oppression, qui a oppression qui a une durée beaucoup plus longue, et par conséquent, il va se fonder pour soit compléter, soit s'opposer à Rabbi Eliezer pour la durée de l'époque messianique, mais d'après le même raisonnement. Alors, Rabbi Dossa Omer, Arba Meos Shono, 400 ans. Pourquoi ? Ksiv, il est écrit d'une part dans Genèse 15-13, et the avod dum, the inuosom, arba meosonom. Et ils te serviront, les Hébreux serviront les Égyptiens. Et ils t'opprimeront, les Égyptiens opprimeront les Hébreux, pendant 400 ans. Donc d'une part, il est écrit que le mot avec le verbe opprimer, que pendant 400 ans, les Égyptiens. C'est dans l'annonce faite à Abraham. Sache que tes descendants seront esclaves dans une terre qui n'est pas la leur, et ils les serviront, et les Égyptiens les opprimeront pendant 400 ans. Donc d'une part, il est écrit que pendant 400 ans, il y aura oppression. Le Talmud continue. Ursiv, en somme, il est écrit par ailleurs, les mêmes versets que tout à l'heure. Samcheinu, kimos inisonu, le verset des psaumes, le même verset. 90-15, réjouis-nous selon les jours pendant lesquels nous opprimons. Donc, raisonnement identique, mais nous avons une durée d'oppression plus longue, par conséquent, l'équivalent en juin doit être plus long, c'est dans 400 ans et 40. Est-ce que vous suivez le raisonnement formel ?
Une question. Oui. Quand il dit que ça correspond à telle période, est-ce que ça veut dire que le Messie va attendre jusqu'à là, ou est-ce que ça va...
Vous étiez là au début de la séance. Je vous ai dit que nous allons d'abord étudier le texte, nous allons le traduire simplement.
Ah oui, j'ai compris.
Et que nous allons reprendre tout cela. Alors j'ai dit au début qu'il s'agit d'un texte qui nous donne des possibilités, puisque nous avons lu, vous étiez là à la phase de Maïmonide, quand on a lu Maïmonide. Maintenant je vous ai montré, il y a divergence entre les rabbins, car les rabbins ne savent pas. Donc il dit clairement, il s'agit donc de possibilités, nous le reverrons dans l'étude du texte. Ceci indique, écoutez, où il sera là 40 ans ou 400 ans, 70 ans, 100 générations, il ne sera pas là tout à la fois.
Non,
nous avons déjà six dates différentes.
Je vous dis, les 400 dates, ça veut dire qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il vienne, ou est-ce qu'au moins qu'il viendra et ça durera?
C'est la durée. Toutes ces réponses, c'est combien de temps durera l'époque messianique? Yomom Samoshia. Combien de temps durera l'époque messianique? Combien de temps l'époque messianique a-t-elle une durée fixe? Alors, nous allons le voir tout à l'heure en détail. Il s'agit effectivement, alors, je n'avais pas compris la question, il s'agit de savoir, si l'on peut savoir aujourd'hui, combien de temps durera l'époque du Messie.
Je ne sais pas combien de temps il faut.
J'ai dit au début, n'est-ce pas, que même en admettant la venue du Messie à la fin des temps, c'est-à-dire lorsqu'il viendra de toute façon, s'il vient par le mérite, il viendra plus tôt, mais s'il vient à la fin du temps, mais combien de temps? Donc le problème ici, c'est combien de temps durera ce qu'on appelle en France l'époque messianique, en hébreu on appelle Yomé Mashiach, les jours du Messie. Ça va? Je n'avais pas compris votre question. Alors, nous en sommes donc à Rabbi Dossa, n'est-ce pas? Donc on a fini pour... On a fini Rabbi Dossa. Alors de nouveau, nous allons avoir Rabbi. Donc Rabbi, qu'on a eu tout à l'heure aussi, et qui tout à l'heure parlait de trois générations, donc, et qui dans cette perspective va nous dire Rabbi Oimer, Sheloish Meois. Le Shishim, le Chomesh Shonon, 365 ans, que Minyan Yomoy Sachamo, il précise, selon le compute des jours du soleil. 365 années solaires, c'est-à-dire des années de combien de jours? De 365 jours. Il n'y a pas 350 ou 55 jours. Ceci a son importance, comme nous le verrons tout à l'heure. Le rapport entre l'affirmation et le verset n'est rien moins qu'évident. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe 63, verset 4, qui yom nokom be libi ushnas be ulai bopo. Car un jour de vengeance dans mon cœur et une année de mes libérés ou de ma libération est venue. Alors vous voyez, il y a bien un jour et le mot année, mais nous serons amenés à voir en détail comment Rabbi peut lire cela pour signifier que le Messie va, l'époque messianique va être de 365 ans. Fin de la deuxième braïta. Donc nous avons ici une deuxième braïssa qui nous a donné trois durées. Vous voyez que nous commençons à entrer dans des durées qui sont beaucoup plus longues que la première fois, avec, parmi les trois rabbins cités, il y en a deux qui sont les mêmes que la première fois, mais qui n'ont plus du tout la même durée proposée. Alors, la Gemara apporte une autre braïssa, annoncée, une braïssa anonyme, annonce, qui est enseignée par un rav, qui est Avimi. Alors, Avimi, d'oreille de Rabbi, ça s'appelait son père, mais de Rabbi Abaou Omer, Avimi, fils de Rabbi Abaou, dit, Shivas Alofim Shono, 7000 ans, comme il est dit, il y a un verset, alors là, je vous demande de faire une petite correction, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est que le Talmud a cité ici un verset. Et ce verset, dans la citation, il a rajouté des mots pour le rendre plus clair, qui ne se trouvent pas dans le verset d'Isaïe. Les éditions normales du Talmud mettent les mots entre parenthèses. L'édition ponctuée que vous avez nous a mis entre parenthèses. Donc dans la citation qui vient, vous mettrez entre parenthèses le mot Cain et le mot Hachem, c'est-à-dire l'avant-dernier mot. Alors donc, je répète, une braïssa au nom donc de ce rabbin, qui nous dit que le Messie, les jours du Messie dureront 7000 ans, chez Neymar, comme il est écrit donc dans Isaïe 62, 5, Unsos Roson al Kalo, Yosis Olaïr Elokaïr. Comme se réjouit le fiancé avec la fiancée, se réjouira Dieu avec toi. le mot Kei, n'est-ce pas, pour rendre plus clair, ainsi, de la même façon, sur la Julia, on a ajouté le Seigneur pour Dieu, n'est-ce pas. Donc le mot Kei et Hachem sont à mettre entre parenthèses, comme c'est l'habitude, donc, dans les textes du Talmud, ça ne change rien au reste du sens. Donc là, on est déjà, hein, 7000 ans, ça prend des proportions assez gigantesques. Fin de cette Beraïssa. Et maintenant, nous avons encore deux enseignements, les deux derniers. Ils sont deux enseignements. Alors, je crois que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un passage à propos, effectivement. C'est ça. Lorsque Rabbi, vous avez dû me signaler, hein. Lorsque Rabbi a fait son enseignement en disant que les jours du Messie seront de 365 ans, comme il est écrit, car un jour de vengeance est dans mon cœur, Libye, et une année de libération est venue, la Gemara pose une question, qu'est-ce que ça veut dire dans mon cœur ? Le reste est clair pour la Gemara. Le reste est parfaitement clair, mais ce qu'il voudrait préciser, c'est pourquoi il est écrit un jour de vengeance dans mon cœur. Alors, la femme lui demande, Maï, Yom Nokum de Libye. Qu'est-ce que ça veut dire, un jour de vengeance et dans mon cœur? Alors, vous avez deux réponses différentes. Omar Rabbi Yochanan dit, Libye, il est ici. Avaraï, l'obé ici. À mon cœur, je l'ai dévoilé. À mes membres, je ne l'ai pas dévoilé. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, mais Rabbi Shimon ben Lakish a dit une autre interprétation. Le Libi Yilisi, le Malchia Shoref, l'Obelis Yilisi. À mon cœur, je l'ai dévoilé, aux anges du service, je ne l'ai pas dévoilé. Donc ceci était une parenthèse, si je puis dire, dans l'énoncé des différentes durées du Messie. Mais évidemment, ce n'est pas par hasard que le Talmud l'introduit ici, de savoir que signifie que le dévoilement a été fait à mon cœur, c'est-à-dire que ce dévoilement reste intérieur et n'est pas extériorisé aux membres. Alors je reviens maintenant aux deux derniers enseignements, si vous souvenez, je n'ai rien sauté d'autre. Là, on l'a vu à Vimeil. Alors, les deux derniers enseignements, Omar Rav Yehuda, Omar Shmuel, Rav Yehuda